clairsienne souhaite expérimenter de nouveaux usages que nous allons vous expliquer. Alors, pour vous présenter ce lieu à usage multiple et innovant, j'ai le plaisir d'être assisté de M. Stéphane Defaille, directeur général de l'EPA Bordeaux-Atlantique. Bonjour. Mme Sophie Bertelier, SBBT Architecture, architecte mandataire de l'UMI, associée à Alain Trio, Lambert Lénac et Rémi Sall, paysagiste. Docteur Ragnar Wiesmann, expert en santé environnementale. Et enfin, Daniel Palmaro, directeur général de Clairsienne, maître d'ouvrage de l'UMI. Accessoirement, Fabrice Huber-Chicot, je suis en charge du projet l'UMI en tant que responsable de programme chez Clairsienne. Donc, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une large introduction par M. Stéphane Defaille sur l'opération Bordeaux-Euro-Atlantique, sur le quartier Saint-Jean-Belsier, sur le domaine de l'Ars plus particulièrement. Ensuite, Mme Sophie Bertelier nous présentera l'opération, son parti pris architectural, son équipe, les différentes fonctions, les différents publics, les différents usages de ce lieu, car il ne s'appelle pas l'UMI par hasard, le lieu à usage multiple et innovant. Monsieur Daniel Palmaro nous présentera ensuite les enjeux, les ambitions de cette opération. Et enfin, le docteur Ragnar Wiesmann. Madame Bertelier et Monsieur Palmaro nous présenteront les innovations et les expérimentations à l'œuvre sur ce projet pour répondre justement à ces enjeux. Enfin, nous réserverons un temps d'échange consacré aux questions du public. Avant tout, d'abord, merci Monsieur Stéphane Defaille d'être parmi nous. Vous allez donc nous présenter Bordeaux-Euro-Atlantique. Le quartier Saint-Jean-Belsier, le domaine de l'Ars en particulier. En quoi l'innovation a apporté votre projection de ce nouveau quartier ?
Alors, merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez ? Non. Parfait. C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour... En fait, pour ouvrir avec cette présentation toute une journée dédiée à des projets d'Euro-Atlantique. Bordeaux-Euro-Atlantique, c'est une opération de grande ampleur qui s'est créée il y a maintenant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas grand-chose en urbanisme, pour réaménager tout le sud de Bordeaux, une partie de Bègles et de Floirac, autour d'un événement majeur qui est arrivé le 2 juillet dernier, à savoir... l'arrivée de la grande vitesse sur Bordeaux. L'arrivée de la grande vitesse sur Bordeaux, en fait, elle consacre l'attractivité de Bordeaux et un constat qu'on peut faire. Est-ce que c'est positif, négatif ? C'est à nous d'en faire quelque chose de positif. Ce constat, c'est que Bordeaux attire beaucoup, notamment de nouveaux habitants. Pas que parisiens, d'ailleurs. Et Bordeaux en attire beaucoup. Quand on regarde simplement les trajectoires démographiques, on voit qu'en 2030, nous serons 220 000 de plus qu'aujourd'hui. Et ça peut se traduire de deux manières. C'est soit on construit toujours de plus en plus loin, et donc on met de plus en plus de voitures dans la ville. On crée aussi des pièges de pauvreté, parce que c'est aussi le constat quand l'éloignement n'est pas choisi, on le voit, une augmentation des taux de divorce, simplement, c'est un petit indicateur, mais qui montre bien que la vie peut être plus compliquée dans ces cadres-là. Ou alors, au contraire, on l'organise, et on l'organise pour que cette vie ensemble, sur ce territoire, se passe bien. L'UMI, c'est une opération qui contribue complètement à cela. Alors, nous, en tant qu'aménageurs, nous avons un territoire, vous le voyez sur l'écran derrière moi, un territoire assez vaste qui commence au pont de Pierre et qui s'arrête à peu près à la rocade, un tout petit peu avant, à la fois sur Bègles et Floirac. Ce territoire, c'était un territoire de friches, friches industrielles, friches commerciales. L'UMI prend place sur l'ancien site des magasins Point P, qui ont été déplacés un tout petit peu plus près de la rocade, sur la commune de Floirac, et qui viennent d'être tout juste démolis. Nos enjeux sur tout ce territoire, et peut-être juste si on reste un instant, pardon, sur l'image précédente. Vous voyez, il y a plein de petites couleurs là-dessus. Alors, ce n'est pas tellement pour faire joli ou patchwork. C'est que notre conviction, quand nous développons des nouveaux quartiers, c'est précisément que ce que nous voudrions faire, ce sont précisément des quartiers. Des quartiers, ce sont des endroits... D'abord, ce sont des endroits pas très grands. Si vous regardez Bordeaux, le Bordeaux d'aujourd'hui, il est composé d'une myriade de petits quartiers. Vous ne voyez pas très bien, d'ailleurs, quand on passe d'un quartier à l'autre, sauf qu'en fait, on constate a posteriori, tiens, je ne suis plus au Chartron, tiens, je ne suis plus à Guétourny, tiens, je ne suis plus Saint-Genest, Codéran. Tout ce tissu, Amédée-Saint-Germain, Sacré-Cœur, Belsier, Carvernet, pour prendre des quartiers qui sont vraiment dans notre territoire d'enjeu. Et ces territoires, ces quartiers, nous essayons de les travailler en faisant en sorte qu'on y trouve tout ce qui fait de la vie. Pas n'être que sur des quartiers 100% résidentiels, pas n'être que sur des quartiers de bureaux qui sont morts le soir et le week-end. Des quartiers où on puisse aller chercher sa baguette de pain le matin à pied, où on trouve ses transports pour aller dans le centre-ville, au campus si on est étudiant, qu'on puisse aller travailler ou simplement aller prendre le train à la gare pour découvrir notre magnifique région. Tout ça, ça demande un travail qui est un travail compliqué parce qu'on ne décide pas de tout. Pour faire venir un boulanger, bien sûr, il y a un certain nombre de conditions à remplir, sauf que nous, on n'est pas boulanger. On ne va pas se prétendre boulanger. Donc, il faut créer les conditions favorables et c'est vraiment ça qui est important pour nous. Si on continue cette fois-ci, nos enjeux, donc, ils sont d'accueillir au total, sur tout très grand territoire que vous avez vu, 50 000 habitants, et de contribuer à créer 30 000 emplois. L'emploi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que je vous ai parlé de la démographie. Mais si nous n'arrivons pas à créer des emplois, tout ça va être un petit peu compliqué à vivre. Alors, pour l'instant, je vous dirais, on est plutôt très satisfait. Les indicateurs sont au beau fixe. On a calculé, il faut créer à peu près 7 000 nouveaux emplois par an pour absorber la dynamique démographique que je vous citais tout à l'heure. L'année dernière, on était à 7 500, donc au-dessus du compte. Alors, ce n'est pas parce que l'année dernière, c'était bien qu'il faut s'en satisfaire. Ça demande beaucoup de travail. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui sont venus hier et avant-hier dans différents cadres à Bordeaux que nous avons reçus. Nous avons présenté Bordeaux, d'ailleurs, pas que Bordeaux-Euratlantique. Mais nous aussi, nous, sur Euratlantique, nous essayons de travailler ça. Et là aussi, en termes d'emploi, c'est toute la gamme des emplois, depuis des emplois tertiaires, de services, le siège de Clairsienne qui va venir s'y implanter, vous le disiez tout à l'heure, des emplois dans le numérique, c'est à la fois très à la mode et Bordeaux est très en pointe dessus, mais aussi des emplois dans tout un tas d'autres secteurs. On a pas très loin un certain nombre, par exemple, de sites industriels qu'on s'évertue de préserver parce que là aussi, une ville qui ne serait faite que de col blanc serait une ville assez inquiétante. Et ça aussi, c'est un travail sur la mixité fine. C'est pas que dans l'habitat qu'il faut travailler cette question de la mixité. Et bien sûr, au-delà de tout ça, c'est aussi créer des espaces verts, c'est aussi créer des lieux de culture. Tout près de là, nous sommes en train de travailler à l'installation d'un musée. Nous sommes en train d'installer un théâtre pour enfants, pour les enfants de 3 à 8 ans, théâtre de la Cachette, qui existe depuis 30 ans à Paris et qui vient s'exporter à Bordeaux. Nous venons créer un parc de 9 hectares, simplement sur ce territoire-là, parce que ça aussi, ce sont des éléments absolument indispensables pour faire la qualité de vie de demain. Voilà quelques images. Alors, il ne faut pas regarder les images des immeubles, puisque là, ce sont nos paysagistes qui les ont produites. Mais voyez un petit peu l'ambiance des jardins qui vont être créés autour. Nous avons aussi un certain nombre... Donc là-dessus, on est sur l'entrée de ce parc de 9 hectares qui va être connecté aux berges de la Garonne. Et demain, on pourra aller du débouché de ce parc. On va voir un petit peu après où se trouve l'immeuble précisément. Il est plutôt bien placé pour ça.
Justement, je me permets de rebondir sur vos propos. Vous soulignez l'importance de la vie de quartier. Vous soulignez l'importance de... Euh, au travers de ces perspectives, de l'intérêt d'y mettre de la vie, de la mixité, de l'emploi, de l'habitat. En quoi l'UMI représente tout ça et quels sont les enjeux plus particulièrement à l'échelle de l'UMI?
Alors, à l'échelle de l'UMI, quelque part, on est dans l'application des principes que nous, on essaye d'avoir à l'échelle d'un quartier. On les ramène à l'échelle d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles d'une certaine manière, puisque tout cela est très intriqué. Il y a un travail de couture très fin qui a été fait là-dessus. Puisqu'on va avoir la diversité justement de ces programmes déjà au sein de l'immeuble. Alors, nous, on aime beaucoup travailler avec les gens qui vont être propriétaires longtemps de leurs immeubles. Et les bailleurs sociaux sont en particulier Clercienne, puisque nous avons quand même un certain nombre d'opérations. On ne va pas en faire le tour, mais nous avons vraiment beaucoup, rive droite, rive gauche, dans ce secteur ou ailleurs. Nous, on aime bien travailler avec vous, bailleurs sociaux, parce que votre problématique, c'est que vous n'êtes pas là simplement pour 2 ans, 3 ans. Vous êtes là souvent pour 40, 50 ans, voire beaucoup plus. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans le travail sur ce projet, c'est que vous-même, finalement, les préoccupations que j'évoque, qui sont celles de l'aménageur, c'était déjà vos préoccupations à vous. Nous n'avons pas été dans un projet où, quelque part, nous vous avons dit « voilà ce qu'il faut faire ». C'est au contraire un dialogue, voilà nos convictions sur la ville, je vous en ai partagé un certain nombre, qui ont rejoint des convictions qui étaient vôtres. Et je crois beaucoup à cette manière de travailler et la richesse de ce projet dont on est très fiers. Je crois que j'avais eu l'occasion de vous le dire, même lors de notre première rencontre, c'est un projet qu'on aime beaucoup à la fois dans son esthétique, mais aussi dans la manière dont il est conçu dans ses détails. Justement, c'est très riche quand on arrive à être dans ce dialogue ensemble, et parce que nous-mêmes, nous tout seuls, on n'a pas toutes les clés de la ville. C'est dans ce dialogue, également avec les habitants. Alors, les habitants du quartier ici, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais les habitants de Belsier qui sont autour. Il y a eu un grand travail de discussion avant même ce projet urbain. C'est ce travail de dialogue avec des professionnels, avec des non-professionnels, qui permet d'avoir un projet à la fin qui soit riche et surtout qui contribue au vivre ensemble. Et ça c'est quelque chose qui est compliqué, dont on a encore moins les clés que sur la ville et dont je crois que vous allez nous parler puisqu'il est au cœur de ce projet.
Effectivement, c'est une équation très compliquée. Et Sophie Berthelier, par son talent, a réussi, me semble-t-il, à trouver les solutions. Elle va nous présenter l'opération LUMI telle qu'elle l'a conçue, justement pour s'articuler avec l'échelle de votre territoire, les ambitions de ce territoire qui seront à un niveau d'exigence très élevé, à tout niveau. Sophie Berthelier, je vous laisse présenter LUMI.
Merci. Oui, donc je rebondis sur ce que vous disiez sur vos ambitions. Pour nous, c'était un véritable souffle, bouffée d'oxygène, d'avoir un cahier des charges aussi riche et aussi exigeant aussi. Et également, de la part de Clercienne, c'était une formidable aventure de participer avec eux à ce projet. Donc, avant tout, c'était une façon de repenser l'habitat, une façon de penser la vie, de replacer en fait l'être humain au centre de nos études et de la façon de voir le monde. Et ça, finalement, on peut dire que c'est une innovation dans la façon d'aborder les choses. On n'a pas besoin d'avoir des innovations techniques très compliquées, mais bon, il faut sans doute savoir tous ensemble et comment démarrer un projet et comment resituer l'être humain et son bien-être au centre du projet. Donc, effectivement, nous sommes coordonnateurs de cette opération qui comporte 5 programmes, dont le siège social de Clercienne, mais aussi une crèche, des logements locatifs sociaux, des logements accession et également une résidence intergénérationnelle. Donc je partage ce projet avec mes amis architectes Lambert Lénac et puis Alain Triot et Luc Arsène-Henri pour chacun des opérations distinctes. L'idée, en fait, c'était de conserver l'homogénéité de ce lieu parce qu'en fait, l'enjeu, c'est un enjeu urbain à double titre. D'une part, parce qu'on se situe en proue du futur quartier de l'Ars, de Bordeaux-Atlantique. Et également, ce bâtiment va se situer face à des grands paysages, notamment bordés par la Garonne et les ponts qui traversent la Garonne. Et donc, cet enjeu, c'était de se dire comment conserver une homogénéité globale sur l'ensemble du site, hein, sur l'ensemble des programmes pour en faire un lieu unique, mais également avoir des spécificités liées à chaque programme et à chaque lieu. Donc nous avons mis en place une trame commune à tous, à la fois horizontale et verticale, sur laquelle chacun pouvait travailler, également en jouant aussi sur les pleins et les vides, les creux et les possibilités d'aménager des espaces extérieurs. L'autre enjeu était bien sûr de prolonger le jardin de l'Ars à l'intérieur de l'îlot, mais pas seulement à l'intérieur, à la fois sur les terrasses, par des jardins partagés, avoir une osmose en fait entre une grande échelle et une échelle plus petite pour environ, je dirais, 800 ou 8000 personnes. Et donc, chacun a pris en charge son programme en respectant ce cahier des charges. Et on en est arrivé à finalement conserver une homogénéité globale tout en ayant une spécificité pour chacun des programmes. Comme vous le voyez sur la vue, il y avait donc un épanelage qui avait été mis en place par les urbanistes de Bordeaux-Atlantique, qui définissait effectivement une forme attitrée. Et nous avons travaillé cette forme pour qu'elle soit beaucoup moins rigide et qu'elle s'enrichisse justement de programmes complémentaires qui n'étaient pas écrits dans les chartes de logement, mais que nous avons concrétisés avec Claire Sienne au fur et à mesure pour à la fois développer de la flexibilité et de l'évolutivité dans nos logements. C'était un sujet que nous travaillons depuis de nombreuses années, et savoir comment on pouvait faire pour donner plus d'espace, utiliser la construction pour permettre aux gens de pouvoir évoluer dans leur vie, acheter des appartements et puis pouvoir évoluer au fur et à mesure. Et ça, nous l'avons mis en place véritablement, concrétisé véritablement avec Claire Sienne, qui nous a suivis complètement dans cette démarche. Et ça, c'est vraiment, je crois, la plus belle réussite qu'on pourra avoir une fois que ce sera terminé. L'autre point concernait effectivement le siège social de Claire Sienne. Là également, c'était très intéressant, puisqu'en fait, ce n'étaient pas des bureaux en blanc. Donc, nous avions la possibilité d'échanger avec les gens qui allaient travailler dans ces lieux. Et nous avons souhaité également trouver de la flexibilité et fournir aussi des espaces de détente, des espaces partagés extérieurs pour que tout le monde puisse avoir la vue sur la Garonne, puisqu'en fait, le siège de Claire Sienne se situe face à la Garonne. Donc, tous ces éléments-là, on a pu véritablement les mettre en place tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment une aventure globale. Et je pense honnêtement qu'un projet réussi, c'est quand tout le monde arrive à partager les mêmes valeurs et se retrouver dans des valeurs humanistes qu'on a tendance à perdre aujourd'hui. Et voilà, c'est un réel plaisir de pouvoir partager aujourd'hui toutes ces idées avec vous. Donc, je pense que je vais passer la parole à M. Palmaro pour qu'il puisse rebondir sur ce sujet.
Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses. Hein. Nous sommes, le sens du long terme, les enjeux d'aménageurs. Hein. Nous sommes aussi aménageurs. Je dirais qu'en fin de compte, ce qui nous caractérise, c'est peut-être qu'on est là pour faire société et aussi pour créer les conditions que chacun puisse se développer. Je dirais que c'est presque un peu cette cette dialectique entre la société et l'individu. Et ce que je dis, c'est pas quelque chose de théorique, hein. On le voit, c'est vraiment très concret. Et c'est vrai que sur ce site-là, je rappelle peut-être quelques éléments de contexte et d'histoire qu'on a pu vivre. Au début, en fait, il s'agissait pour nous de déplacer tout simplement notre siège. J'avais eu, une commande de notre actionnaire à l'époque, le CILSO, de trouver un site qui puisse abriter Clairsienne et d'autres sociétés. Et donc ça a été le point de départ. Et dans ce point de départ, bien sûr qu'on est venu voir à l'époque M. Courtois, hein, en disant, voilà, on est prêt à faire nos propres bureaux, mais aussi autre chose. Hein, et donc, on sait faire du logement social, de l'accession, etc., etc. Et donc, ça, c'était l'idée du initial. Et ensuite, il y a eu cet endroit qui est quand même exceptionnel. C'est à la fois un endroit exceptionnel, je dirais, en termes de lieu, de site, de vue sur la Garonne et avec des vues longues. On a adhéré tout de suite, bien évidemment. Mais c'est aussi exceptionnel par le niveau de contraintes et d'exigences. Parce que quand même, il faut rappeler que la parcelle, elle fait 6000 m2, ou pas loin, hein, j'arrondis. Et qu'on était au début dans un... D'ailleurs, au début, on l'appelait c'était un cube, presque. Hein. Donc, tout le travail de finesse, justement, finesse dans la programmation, dans qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, comment à la fois la société, le lien social peut se créer, et comment chacun peut trouver un projet personnel. Et c'est vrai qu'une idée importante, c'est qu'on a créé une équipe. On a choisi ensemble l'équipe. Hein. Nous-mêmes, nous avions travaillé avec Sophie Bertelier sur un site très contraint à Codéran, hein, et dont on est très fiers aussi. Donc on est fiers des deux. Fabrice Verchico, d'ailleurs, avait travaillé aussi sur ce projet. Et progressivement, ben, on a étoffé une équipe. Et là, l'idée, c'était ce qu'on sait faire dans des zones d'aménagement, puisqu'on a aussi aménagé, par exemple, aux Akennes, des projets où on trouve des bureaux, où on trouve des hôtels, une crèche, etc. L'idée, c'était de se faire sur ces 6000 m2, et en construction, près de 22 000, 23 000, je ne sais plus à combien on est, mais on est à peu près dans les purs. De trouver cette complexité et donc de pouvoir innover sur la façon de faire un programme, donc d'être vraiment sur le fond. J'irais, auparavant on était sur la forme, c'est-à-dire le lieu, les contraintes. Là, sur le fond, qu'est-ce qu'on y met? Donc on savait faire du logement social, on sait toujours le faire, on savait faire, mais comment j'irais densifier les usages. Et bien donc là, on est parti sur l'intergénérationnel, sur la colocation, sur des logements quand même un petit peu différents, donc j'en dis pas plus parce qu'on va en reparler, sur une conciergerie, sur nos propres bureaux, où là, sur nos propres bureaux, il y a tout un champ, mais j'en parlerai ensuite, d'évolution et d'ouverture. Et effectivement, peut-être sur la diapo d'avant, effectivement, les points clés, c'est effectivement comment on assure ce lien social, ce bien-être, et avec toujours la préoccupation que nous avons, alors le long terme, mais ça, pour nous, ça se traduit par quelles préoccupations nous avons sur l'environnement et de plus en plus sur la santé. Donc on a aussi élaboré un programme santé et habitat. Ça s'est traduit par, en fait, il y a bien 4 ans, une sensibilisation, et je me souviens d'une conférence qu'avait faite votre collègue sur, pas forcément le logement, mais bon, qu'est-ce qui se passe quand on achète une voiture neuve et qu'on y met un gamin de 3 mois dedans, en plein soleil, et que ça, dégage toute une série de produits très nocifs. Voilà, l'idée, c'était d'entrer dans ce domaine qui est insuffisamment pris en compte aujourd'hui et de poursuivre vers ces nouveaux usages. Donc on est allé un peu plus loin avec toute une série de choses qui ont intéressé l'intergénérationnel, juste celle d'avant avec notamment la CARSAT qui nous a aidés, hein, et donc on a demandé à Vivalib de nous aider à reconcevoir des logements. Donc là également, on a trouvé avec eux des formules qui permettent d'accompagner les ménages dans une autonomie qui peut être prolongée un maximum, mais qui aussi peut, j'irais, aboutir vers plus d'assistance. Donc il y a des logements qui ont été conçus ainsi, avec toute une série de services. Nous sommes allés vers des choses qu'on ne connaissait pas, hein, par exemple la certification BREEAM. Autant c'est quelque chose qui est connu par des personnes qui font des bureaux, mais pour nous, on l'a découvert à cette occasion. Et par exemple, ça va quand même jouer au niveau de du confort, hein, acoustique. Ça, on s'est rendu compte que par rapport aux critiques qu'on peut avoir sur les bureaux qu'on a actuellement, hein, et dans lesquels parfois on entend des conversations sur du bureau d'à côté, et bien voilà, il y a toute une série qui joue sur le confort, sur la capacité des personnes à bien vivre dans ces lieux. Et ça se traduit par des choses très, très concrètes, comme cette certification, pardon, l'Habitat Sain, hein, qui est un programme qu'on développe au long cours, et bien sûr, tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est impact sur l'environnement. Voilà, donc là, la CARSAT nous a bien aidés, on a eu effectivement un prix là-dessus, et le caractère évolutif, on va en donner quelques exemples tout à l'heure, voilà, sur le lien social, en fait, il y a une myriade d'actions qui vont pouvoir se faire sur un certain nombre d'endroits, donc il y a beaucoup de locaux communs, hein, donc on a par exemple une salle de 115 mètres carrés qui est construite plutôt à vocation sportive, proche de l'immeuble intergénérationnel, mais qui va pouvoir être utilisé par tous les habitants. Le multifonctionnel, la conciergerie qui est proposée, qui sera proposée à nos salariés, mais aussi aux habitants. Donc tout ceci avec les jardins partagés. Donc on a des espaces au niveau de la dalle, mais également sur le roof. Tout ceci, ce sont autant d'occasions que nous allons trouver, que nous allons créer pour densifier, le terme n'est pas bon, densifier, non, pour nourrir le lien social entre nous et les locataires, les salariés entre eux ou avec d'autres. Et l'idée, c'est d'ouvrir toutes ces activités à un maximum de personnes.
Justement, Sophie Berthelet va peut-être pouvoir nous préciser un petit peu les dispositifs à l'échelle humaine, à l'échelle, on a évoqué l'échelle architecturale. Maintenant, si vous pouviez nous préciser un petit peu les réponses innovantes qui vont dans ce sens de plus d'humanité, de plus bien vivre dans cette résidence multifonctionnelle.
Donc, dans la réponse au lien social, en fait, ce qu'on a... Lorsqu'on a dessiné le plan, on a pris le parti de dire pour faire vivre un lieu, il faut qu'il y ait du monde. Ça peut paraître assez basique et un peu bête, mais finalement, l'idée de départ a été de dire toutes les entrées d'immeubles auront lieu au cœur du projet pour que ce jardin, ce cœur d'îlot, puisse vivre et puisse être parcouru par tous, aussi bien par les gens qui vont travailler le matin, qui vont traverser le jardin depuis l'arrêt du tram et qui vont se diriger vers le boulevard des Frères Maugas. Donc les bureaux ont une double entrée à la fois sur le boulevard, mais également au cœur d'îlot. Les gens qui vont amener leurs enfants à la crèche et qui pourront repartir à pied via le jardin de Lars, en traversant le jardin. Ou encore tous les gens qui vont aller chercher leur courrier et qui vont traverser le jardin. Donc l'idée, c'était finalement d'ouvrir tous les halls, toutes les entrées sur ce cœur d'îlot. Et tout autour, c'était de développer donc les logements et face au jardin de Lars sur une double hauteur des duplex qui, pour l'accession sociale, sont évolutifs dans la mesure où quelqu'un achète son appartement et puis il achète un volume et un plateau, une mezzanine, et au fur et à mesure des années qui passent, un bureau peut se transformer en chambre d'enfant ou en deux chambres ou Donc, c'était le démarrage de l'évolutivité dans les logements. Et également, quand on fait le tour, on va arriver au locatif social. Donc, Alain Trio a également développé à notre demande les mêmes duplex. Pour finir sur la résidence intergénérationnelle qui se situait sur la rue Carl Vernet. Et là, l'objectif, c'était de dire il n'y aura rien, aucun logement sera positionné à cet endroit parce que trop proche du mine, le marché, et on mettra justement des lieux communs, à la fois un lieu commun au bureau, comme le disait Daniel Palmaro tout à l'heure, et également la crèche, pour avoir des accès aisés aussi depuis les voitures, parce qu'effectivement, les voitures sont minimisées sur ce site. Et le seul accès possible était rue Carl Vernet, ce qui paraissait logique de mettre la résidence intergénérationnelle avec les personnes âgées plus proches des accès rapides. Donc, d'une certaine façon, notre innovation, elle passe aussi par là, par comment créer des parcours et parcourir en mouvement l'architecture pour amener un changement et un échange social. Donc ensuite, quand on monte un peu plus haut, on trouve des espaces partagés, des terrasses plantées qui font relais par rapport au jardin de Lars, un potager en bout des logements sociaux, et au dernier niveau de la résidence intergénérationnelle, un immense espace commun, abrité, pour finir sur les bureaux par effectivement une terrasse plantée et aménagée. À travers tout ça, effectivement, comme nous sommes à Bordeaux, et que le temps est très clément, on a ouvert un maximum de logements sur des espaces extérieurs. Donc en accession sociale, l'espace extérieur, chaque logement bénéficie de au moins 15 mètres carrés d'espace extérieur que l'on peut à terme fermer et utiliser en espace habitable complémentaire. Ça, c'est l'autre aspect de l'évolutivité des logements, de faire des jardins d'hiver un espace habitable chauffé, fermé par la suite. Et donc, en continuant un peu plus sur les matériaux, chaque matière est définie en fonction de son environnement et de son orientation. Chaque façade, finalement, est toujours basée sur des teintes assez claires, parce que déjà, dès l'origine, il nous semblait que tout ce quartier devrait avoir une connotation blanche, dans des camaïeux blanc-gris ou blanc-beige. Mais voilà, donc on était parti sur cette hypothèse qui avait été parfaitement validée par la ville de Bordeaux, d'ailleurs. Et donc, côté bureau, on a tout un système de protection solaire qu'on a souhaité à la fois transparent, mais avec des sérigraphies blanches. Pour continuer sur l'espace de la résidence intergénérationnelle par de l'aluminium anodisé qui va teinter légèrement, qui va se teinter de gris et qui va quand même refléter une partie de ce qui se passe autour. La résidence de locatif social qui se retrouve sur la traverse et elle en polycarbonate. Et pour finir, avec l'accession sociale, là, nous avons vraiment souhaité avoir le miroir, le reflet du jardin. Et donc, on est plutôt dans des nuances plutôt miroitantes pour capter le soleil et faire rentrer la lumière un maximum, à la fois sur les façades, mais également à l'intérieur. Donc voilà, c'est tous ces dispositifs qui, pour nous, font valeur d'innovation, complétés aussi par la ventilation naturelle, le traitement de l'habitation, on en parlera tout à l'heure avec M. Weizmann, et puis des dispositifs aussi d'utiliser le moins possible de peinture, le moins possible de matériaux nuisibles, pas du tout d'ailleurs, et également d'avoir des lieux ouverts et mutables. Voilà.
Merci Sophie Berthelier. On l'a bien compris, c'est une opération très lumineuse, très ouverte sur son environnement, sur son quartier. Je souhaiterais que Daniel Palmaro juste précise les dispositifs au niveau des bureaux avant que Dr Ranier Wiesmann nous explique précisément les modalités de son intervention sur le projet. Ces bureaux, Monsieur Palmaro, on a rajouté un niveau supplémentaire d'exigence en envisageant des bureaux modulables, réversibles. Pourquoi et quels sont les enjeux derrière cette réflexion et cette conception?
Alors, sur les bureaux, ça me permet aussi, votre question, d'évoquer la façon de faire. Hein. J'ai parlé de l'équipe. Je crois que dans la façon de faire, il y a aussi le fait de faire partager les choses, de les partager aussi avec les collaborateurs, donc de travailler sur comment ces espaces seront conçus. Donc, entre guillemets, la commande que nous avons faite à l'équipe d'architectes, enfin, en l'occurrence à Sophie Berthelier, puisque c'est vous qui vous occupez des bureaux, ça a été d'avoir des bureaux les plus évolutifs possibles. Bon, d'une part, parce que dans le temps, on ne sait pas très bien comment la relation au travail va se faire. On parle de télétravail. D'ailleurs, à Clairsienne, on est en train de se concerter là-dessus. Mais aussi, il y a la question de comment on vit dans ces bureaux. Et donc, il y a à la fois des espaces assez traditionnels, hein, donc des bureaux unipersonnels ou en petits groupes, et il y a aussi des espaces collectifs. Donc dans ces espaces collectifs, il y a notamment des terrasses, il y a des loggias, il y a vraiment presque des usages du logement qui sont introduits dans les bureaux. Et d'ailleurs, on a aussi une partie de nos programmes qui vise à permettre l'usage emploi dans le logement, c'est-à-dire comment dans le logement on va pouvoir aussi travailler dans le temps. Ça fait partie aussi des réflexions. Donc voilà, la question de l'évolutivité, la question aussi de la santé, hein, c'est vraiment deux questions centrales, et aussi la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces grands espaces, parce qu'on a quand même construit beaucoup plus large. Donc il y a peut-être d'autres sociétés qui vont nous rejoindre, mais et en termes d'emploi, il y aura probablement sur l'ensemble pas loin de 400 personnes. Donc on n'est pas très très loin des chiffres que vous citiez tout à l'heure. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu complètement.
Alors, pas tout à fait complètement, je vais vous faire compléter. Vous avez prévu effectivement de grands espaces, et notamment un grand hall, qui est un peu une centralité dans l'opération, qui sera un lieu de rencontre, peut-être un point de mutualisation aussi avec d'autres sociétés qui interviendront ou qui seront hébergées dans l'UMI. Mais vous nous avez réservé une petite surprise pour ce hall qui se transforme.
Alors, sur le hall, effectivement, on pense à pouvoir... donc c'est un hall qui fait pratiquement 250 à 300 mètres carrés, enfin, avec des espaces d'accueil. Et donc l'idée, c'est de pouvoir enlever tout l'usage habituel, donc c'est-à-dire le mobilier et les banques d'accueil. Donc on va faire une démarche spécifique pour trouver des banques d'accueil mobiles. Donc on fera peut-être appel à des designers ou autres. Hein. Ça sera un élément complémentaire d'innovation. Et donc on prend tout ça, on le pousse, et du coup on a un espace d'un seul tenant, enfin en aile, qui va pouvoir faire 250 à 300 mètres carrés, et donc qui peut accueillir,
escamotable.
Voilà, avec peut-être aussi du mobilier escamotable. Enfin voilà, il y a toute une série d'enjeux qui ne sont pas encore complètement réglés. Hein. On va travailler là-dessus, mais l'idée c'est de trouver d'autres usages que le simple usage bureau pour Clairsienne. Et donc pouvoir accueillir des manifestations, pouvoir même offrir cet espace à nos partenaires, associations ou autres, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leurs propres événements.
Merci, M. Palmaro. Vous le disiez, le personnel est partie prenante aussi dans ce projet-là. Chez Clercienne, on fonctionne en mode coopératif, en mode de projet. Et bien entendu, on a interrogé un petit peu les desiderata du personnel qui souhaitait notamment un siège lumineux, beaucoup de lumière, avec des espaces, une vie où il fait bon travailler, un lieu où il fait bon travailler. Dans le prolongement de ça aussi, chez Clercienne, existe le RSE, une démarche RSE, qui a entamé une démarche avec le docteur Ragnar Wiesmann, vous le rappeliez, depuis 4 ans. Et on a souhaité aller plus loin. Et donc on a fait appel à docteur Ragnar Wiesmann pour qu'il examine tout le dossier de consultation de l'opération, qu'il a passé au crible. Et il va nous expliquer en détail quelle a été sa démarche et quelles sont les solutions innovantes qu'il a trouvé pour notre projet.
Bon, merci Fabrice. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Ça me donne l'occasion de parler d'un sujet qui me tient très à cœur, pour lequel je travaille au quotidien, pour lequel j'ai accompagné Clercienne justement. C'est le sujet de la santé. Votre santé, notre santé et la santé bien sûr des usagers dans le bâtiment de Clercienne. Alors moi, je suis chercheur à la base. Je travaille pendant une dizaine d'années en laboratoire pour explorer l'impact de l'environnement sur la santé, la toxicologie, la qualité de l'air. Si je suis sorti plus que 10 d'années de laboratoire, c'était dans un but très précis, justement de concrétiser, d'appliquer les connaissances que j'avais en laboratoire sur le terrain. Ben, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ces sujets qui sont connus depuis très longtemps au milieu scientifique, mieux fermé. La qualité de l'air, notamment, on connaît la problématique depuis 30 ans. La problématique des perturbateurs endocriniens, on en parle aujourd'hui en public, on le connaît depuis 30 ans, c'est rien de nouveau. Aujourd'hui, c'est en public. Mais si je suis sorti il y a une dizaine d'années, c'était justement pour vulgariser ces données-là, amener ces données-là aux différents métiers, parmi lesquels il y avait les architectes, les maîtres d'œuvre, tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire et concrétiser et mettre en place des solutions concrètes. Et du coup, ça m'a fait effectivement très plaisir de tomber aussi sur Clercienne, parce que, effectivement, on s'est rendu compte qu'ils ont eu la même volonté de concrétiser ces données. C'est vraiment de le rendre concret, de pas juste parler. On était aussi d'accord sur une autre chose qui était importante pour moi, comme vous avez dit, un batelier, de mettre l'humain au centre, parce que cette finalité était souvent oubliée dans le passé. Que si on construit, c'est pas que juste pour faire des beaux bâtiments, on construit pour quelqu'un, pour des humains. Il y a des humains qui vivent, qui travaillent à l'intérieur. Et du coup, on aimerait vraiment créer un environnement favorable à la santé ces personnes-là et au bien-être. Alors, santé et bien-être de l'habitat, on pense bien sûr, vous pensez aux composés organiques volatiles, aux particules, les perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui peuvent après déclencher des pathologies très lourdes au long terme, on le sait aujourd'hui. Mais le bien-être, juste pour titre d'exemple, ça va beaucoup plus loin, ça va aussi dans le bien-être quotidien. J'étais intervenu il y a quelques jours à Nantes sur le lien entre la qualité de l'air et la santé environnementale et la performance. Figurez-vous, on se rend compte aujourd'hui que en fait, la performance en entreprise peut augmenter de 60% jusqu'à plus que 100% avec une bonne qualité de l'air intérieur. Du coup, il y a des entreprises qui trouvent aussi un intérêt économique maintenant par rapport aux salariés. Du coup, on peut faire pour des raisons très différentes. Les raisons économiques, les raisons altruistes, parce qu'on veut apporter des bien-être. Et puis, il faut dire, la réglementation devient de plus en plus contraignante aussi. Du coup, la marge de manœuvre qu'on a est de plus en plus réduite. Donc, on a diverses raisons pour le faire, mais aujourd'hui, c'est essentiel d'intégrer justement cette santé dans un projet de construction, comme dans d'autres projets d'ailleurs. Et ça a été très bien fait. C'était effectivement très novateur justement à Clercienne de faire ça, de prendre la santé environnementale comme un corps de métier à part. Alors, si vous partez sur cette base-là, effectivement, M. Palmero, vous avez bien dit, c'est plus ou moins une cube, on va dire. Si on part sur cette base des cubes, vous connaissez tous le Rubik's Cube, je ne sais pas si vous avez fait quand vous étiez petit, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que ce n'est pas possible de résoudre le Rubik's Cube en faisant un côté après l'autre. Si vous ne faites qu'un seul côté, vous n'allez jamais réussir. D'accord ? Il faut vraiment attaquer tous les côtés en même temps. Et ce qu'on a essayé de faire, d'avoir vraiment une vision globale. Et dans une construction comme celle-ci, on a l'habitude d'avoir différents métiers associés. Vous avez le VRD, c'est le voirie réseau divers, vous avez l'électricité, vous avez le chauffage et climatisation, vous avez la menuiserie, vous avez les paysagistes, vous avez énormément de corps métiers qui sont habituellement toujours associés à ce genre de projet. Et aujourd'hui, effectivement, me discourer, ce qu'on a réussi à faire avec les anciennes, dire mais la santé environnementale, c'est un corps de métier à part qui doit aussi faire partie de cette démarche-là. Et ça amène comme des compétences différentes qui sont essentielles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait effectivement pour avoir une démarche globale? Ce qui m'intéressait dans ce projet, qu'il y avait une démarche, une vision globale avec un échange. Effectivement, moi, j'ai les données scientifiques, j'ai pas mal d'expérience maintenant au niveau des constructions, mais néanmoins, ce n'est pas mon métier. C'est le but, c'est effectivement travailler ensemble en tant que scientifique. La science nous permet de fixer des objectifs. Voilà, tout comme la réglementation à certains moments. Et encore, on a souhaité d'aller au-delà de la réglementation et anticiper la réglementation du futur qui va venir, parce que ça va être encore plus contraignant. La science, mon côté scientifique, a permis effectivement de fixer certains objectifs, mais après, c'est tout. Après, effectivement, il faut se mettre autour d'une table, ce qu'on avait fait, et dire maintenant quels de ces objectifs sont atteignables, sont faisables techniquement, humainement, financièrement. Et à partir de trouver un compromis, et je trouve quand même on est allé assez loin quand même, parce que c'est pas toujours évident. Et ça demandait de vraiment analyser les plans, les documents des CCTP, tous les documents de construction, des différents lots, et pour voir au niveau santé, environnement, qualité de l'air, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Déjà, pour la santé environnementale, je ne sais pas si le terme, on va revenir sur le matériau après, si le terme, ça vous parle. La santé environnementale, c'était novateur dans ce sens aussi, parce qu'on lit la santé et l'environnement. Oui, et à l'époque, c'était deux choses à part. La santé, c'était le domaine des médecins. Tu vois, on était en curatif, on est malade, on est en curatif. L'environnement, c'est le domaine des écologues. On ne se parlait pas il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est une discipline scientifique et c'est un plan national et plan régional au niveau politique. Du coup, l'idée, si on a compris quel est l'impact de l'environnement sur notre santé, ça nous donne le moyen de dire, ah ben d'accord, on peut moduler cet environnement pour qu'il soit plus favorable à notre santé. Et ce qu'on a fait à l'époque, mais on a oublié l'urbanisation, si vous vous souvenez, la création de tout à l'égout, tout ça, c'était une mesure santé environnementale. Ce n'était pas assainir la ville. On était bien dans la santé environnementale, mais pour différentes raisons, on a un peu oublié. Pendant un moment, on a travaillé que sur l'énergie. On a travaillé sur une seule face du cube, justement, on a dit, on va faire l'énergie. Et à ce moment, je dis, mais écoutez, si vous avez des bâtiments qui sont très efficaces en énergie, d'accord, mais la qualité de l'air intérieur, ça pose quand même un souci. Vous voyez, il faut vraiment travailler sur les différents côtés. L'environnement aujourd'hui, ici, qu'est-ce que c'est? L'environnement, c'est la chaise sur laquelle vous êtes assis. C'est le pull que vous avez sur vous, le vêtement. C'est le maquillage, le cosmétique que vous avez mis sur vous. C'est l'air que vous respirez. Tout ça, c'est l'environnement sur lequel vous avez un impact. Et nous, on a essayé vraiment de minimiser cet impact au maximum dans la construction, dans le logement, dans le bureau, au niveau des clairsiennes. Et ça passe effectivement par le choix des matériaux de construction, parce qu'ils présentent des émanations importantes, mais aussi par la manipulation de ce matériau, la façon de le mettre en œuvre. Une fois vous avez un matériau de construction qui choisit, si on a une construction saine, tout est fait. Il s'agit aussi de travailler sur la gestion ultérieure. Parce qu'on peut beau avoir un bâtiment qui est très peu émissif, il y a toujours des émissions, il faut être clair là-dessus, mais le but c'est de les réduire au minimum. Si après, au quotidien, on gère ce bâtiment avec un entretien, des bruits d'entretien qui sont polluants, effectivement, ça ne va pas. Du coup, on a essayé de travailler sur cette globalité. On a également, en parallèle, mis en place une charte de nettoyage sain qui met une construction saine qui sera gérée de façon saine et facile à gérer de façon saine.
Merci, docteur. C'est passionnant ce que vous racontez. Et effectivement, au-delà de la technicité de votre approche, de toute l'expertise que vous développez, vous avez fait un travail colossal sur le dossier qu'on a repris. Et notre ambition, c'est de peut-être pas tout y mettre, mais de faire les bons arbitrages pour avancer, pour déployer ensuite, peut-être que M. Palmaro en parlera, un cahier des charges habitat sain au sein de notre production. où il y a déjà beaucoup de choses. Clercienne est labellisée globalement maintenant NF Habitat HQE, au niveau de sa production de logements neufs, au niveau de la réhabilitation, au niveau de l'exploitation. Notre ambition, M. Palmaro, c'est d'aller encore plus loin, si j'ai bien compris. Docteur Ragnar Huisman l'a bien rappelé, c'est aussi des changements au niveau des pratiques. Alors dans ce bâtiment, on a de la ventilation naturelle, on a un système automatisé qui va permettre des choses, tout un attirail technologique et des innovations techniques, mais aussi ça passe par une démarche que vous avez déjà engagée, M. Palmaro, au sein de la société, pour progresser au niveau des pratiques, avec le RSE. On a réussi à valoriser beaucoup de choses pour obtenir la certification BRIM qui existe déjà chez Clercienne, le tri sélectif Elise. Hein, vous pouvez nous en parler peut-être plus précisément.
Oui, sur tous ces sujets, c'est vrai que ce qui est important de dire, c'est que là, on a en fait un laboratoire d'expérimentation hein, urbaine, sociale, technique. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'utiliser tout ce qu'on peut mettre en place, toutes ces expériences, aussi ces savoir-faire d'équipe, de les utiliser partout. Donc c'est vrai que si je rebondis là sur ce que vient de dire le docteur Weissmann, c'est ce qu'on fait là, on le fait aussi sur toutes nos résidences. Par exemple, le nettoyage des parties communes, il y a déjà eu la formation des gardiens, il y a déjà eu le fait de sortir un maximum de produits polluants. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce type d'expérience. C'est pas d'en faire un objet en disant « regardez comme on est les plus beaux à cet endroit ». C'est de dire « bon, comme l'a très bien dit Fabrice Hubert-Gicquot, on a dans tout ce qu'on fait là, dans ces expérimentations, ben, on va faire des arbitrages pour voir ce qu'on peut faire de façon la plus rationnelle pour avoir le maximum d'impact sur l'ensemble de nos actions. Et la RSE, en fait, c'était à la fois, je dirais, une volonté de ma part, mais c'était aussi une forte demande des collaborateurs de Clercienne. Il y a beaucoup d'idées. Par exemple, vous avez cité le fait que on récupère des matériaux dans nos bureaux. Bon, ben ça, c'est une action qui a été mise en place par les ambassadeurs de la RSE au sein de Clercienne et qui ont mené l'opération de A à Z. Donc, moi, tout ce que j'ai eu à faire à un moment donné, c'est que dans l'ensemble des actions qu'ils proposaient, se dire, bon, OK, ça voilà, il n'y a pas un coût exorbitant, il y a un effet positif, on continue, on y va, on développe. Donc voilà, ça c'est quand même une autre façon de travailler. Vous avez évoqué le mode projet. Je crois que c'est un mode qu'on a aussi en commun. Hein, c'est-à-dire, ben, c'est quoi le c'est quoi la finalité de ce qu'on veut faire et ça se traduit par des objets concrets. On est dans le concret parce que bon, on peut gamberger longtemps, mais s'il n'y a pas un impact dans notre vie ou dans la vie des personnes qu'on est censé loger, bah, c'est quand même moins satisfaisant. Et par rapport à la responsabilité, bah, je crois que le fait d'affirmer que nous sommes responsables, en fait, ça nous donne la capacité, le pouvoir d'action, la capacité à agir. Et donc, vous me posez la question, l'UMI demain, bah, dans cette capacité d'action, bah, voilà, on a toute une série de lieux qu'on a mis en place, qu'on ouvre. Il y a une volonté d'ouverture sur les jardins, sur toute une série de lieux qu'on a évoqués. On a toute une série d'actions. On a cité Élise, mais aussi en matière de déplacement, de produits sains et autres. Ben, l'idée, c'est d'ouvrir toutes ces actions et tous ces lieux à d'autres personnes qui auront encore d'autres idées et qui vont peut-être nous enrichir. Voilà. Donc alors, demain à l'UMI, ça sera une effervescence à tous les niveaux.
Peut-être justement, peut-on poser la question à M. Stéphane Defaille de savoir comment va-t-on vivre à Bordeaux-Atlantique demain ? Comment on va y travailler ? Comment on va y habiter ?
Alors à Bordeaux-Atlantique, ou en tout cas dans ce quartier, déjà, on va être... L'école du quartier est en chantier dans 2 mois, juste en face, de l'autre côté du jardin. On a des associations qui sont déjà implantées sur place avant même votre arrivée, des associations qui sont très actives dans le quartier de Bordeaux-Atlantique, de Bexier, de Carvernet, Astrolab, qui fait beaucoup d'accompagnement autour des jeunes. Récupère, une association de récupération qui travaille beaucoup sur la couture, sur les vélos, qui sont juste en face de votre immeuble. Et on travaille d'ailleurs ensemble sur la pérennisation au-delà de ça, avec ce parc qui va permettre d'accéder aussi au transport en commun, bus à haut niveau de service qui va relier Saint-Aubin-du-Médoc, le centre-ville, la gare et le pied de l'immeuble quasiment. C'est en 2019 qu'il est livré, c'est-à-dire à peu près au moment de la livraison de l'immeuble dont le chantier va commencer dans quelques semaines. Donc c'est un quartier où on est très serein sur la manière dont il va être approprié par les habitants. D'ailleurs, vous ne serez pas les tout premiers, puisque les tout premiers habitants arrivent en 2018, dans quelques mois, avec des immeubles qui sont en construction déjà, ici.
Merci, Monsieur Stéphane Defay. C'est un quartier serein et j'aimerais souligner toute la sérénité qu'il y a à travailler avec vos services aussi. Merci à vous.
Elle est réciproque.
Merci à tous. Bon, là, il n'y a plus d'annonces pour les repas, mais on sait où c'est.
Le BIM, vous en avez sans doute entendu parler, car tous les professionnels...
Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, Malin. Non, mais attends. On m'entend? Donc, bonjour, je suis Anne-Marie Tenaille, directrice de l'innovation à l'EPA Bordeaux-Euratlantique. Je suis heureuse de vous accueillir pour la conférence intitulée BIM SIM, des outils de modélisation au service du paysage intelligent. Et on va essayer de décrypter ensemble ces acronymes. Donc, pour le faire, je serai accompagnée de Karine. Attends, si j'y arrive. De Karine Dunogier, qui est chef du département Ville et Mobilité d'Ingérop, et d'Émilie Bernard, qui est BIM Manager, atelier d'architecture 234. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu lors de la conférence précédente, je vous propose une rapide présentation de l'opération d'intérêt.